J'ai une faveur à te demander. Si tu me suis et que tu aimes ce contenu, laisse-moi un avis et 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Ça ne te prendra que 2 minutes et pour moi, c'est un sacré coup de pouce pour faire connaître ce podcast. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Salut à toi, bienvenue sur Sacochette dans la boîte, le podcast. Ici, j'y révèle le dessous caché des marques. Moi, c'est Morgane. Je suis entrepreneur, créatrice, dompteuse de marques, mais aussi auteur. Et surtout, je suis une serial cogiteuse. Dans ce podcast, seule ou en bonne compagnie, je t'embarque avec moi pour mieux comprendre les recettes secrètes du succès d'un projet. Et par succès, j'entends aussi l'idée d'une marque bien dans ses baskets. Allez, c'est parti! Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pour ce nouveau Qui se cache derrière, je te partage ma discussion avec Sandra Pontina, une sérielle entrepreneur qui a fait de ses passions et de ses talents une véritable cause pour la transition alimentaire dans nos quotidiens avec l'organisme de formation qu'elle a créé, Utopique. Alors, avec Sandra, on a parlé d'entrepreneuriat, évidemment. On a aussi parlé de ne pas attendre que tout soit parfait, de comment structurer son offre au départ pour gagner du temps par la suite. On a parlé d'engagement, évidemment, d'organisation millimétrée, de planification pour ne pas laisser de place à l'échec, puisque ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour Sandra et je trouve sa façon de faire très intéressante. On a aussi parlé de driver vers ses objectifs sans subir son temps. D'ailleurs, Sandra nous a donné quelques astuces pour équilibrer son pro et son perso. On a aussi parlé de l'importance des chiffres pour piloter son entreprise et que c'était essentiel de prendre en main ce sujet pour vraiment se développer sereinement et se développer aussi avec efficacité. Bref, comme d'habitude, c'est un épisode qui booste, c'est un épisode qui inspire et qui permet aussi de se lâcher la grappe. Donc, je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ma discussion avec Sandra. Sandra, tu es aujourd'hui naturopathe, coach certifiée et la fondatrice d'Utopique, ton nouveau grand bébé. Mais tu es aussi une amie avant tout. On s'est rencontrés grâce à un réseau féminin il y a bientôt 7 ans. J'ai essayé de calculer la dernière fois et je me suis dit, mais oui, ça fait déjà pratiquement 7 ans. Et j'avais très envie de t'inviter à ce micro. Parce que tu as quand même ce truc assez particulier, je trouve, de jamais rien lâcher. Tu mènes ton combat depuis maintenant pas mal de temps avec passion et je sais que ça n'a pas été tous les jours facile. Et finalement, tu réussis à donner vie à tes idées et c'est quelque chose que je prône de plus en plus à ce micro. C'est l'idée que bah, aussi on peut tout réussir. Donc, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec moi. Hello Sandra.
Salut Morgane. Merci pour cette intro et je suis ravie aussi aujourd'hui, surtout que mon nouveau bébé Utopique, comme tu l'as dit, tu m'as aidée à le faire naître, donc je suis ravie d'échanger avec toi sur le sujet.
Bon, bah, écoute, je suis trop contente, j'ai hâte, j'ai pas mal de questions. Je pense aussi que le fait que ce soit un projet qui soit pas très vieux, ça peut aussi aider pas mal parce que j'ai aussi une communauté, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en hésitation de se lancer ou qui sont vraiment des bébés preneurs. Et toi, tu n'es pas une bébé preneur, mais en tout cas, tout ça n'est pas si loin. Donc, je pense que ça peut être utile. Et puis, voir un peu aussi te suivre après par la suite et voir comment tu auras fait grandir ce beau bébé. Alors, moi, et peut-être que tu le sais déjà, mais j'aime bien revenir un peu à la source. Donc, avant de te demander quel genre de petite fille tu étais, parce que c'est une question que je pose tout le temps, est-ce que tu peux juste te présenter en quelques mots, histoire de compléter un peu ce que j'ai raconté, moi, dans l'intro?
Oui, donc je suis donc Sandra, je vais sur mes 42 ans cette année. J'ai une petite fille qui, elle, va sur ses 10 ans, et on en reparlera sûrement, mais qui a été un moteur dans mon changement de vie. Je vis en région parisienne et je suis une passionnée d'alimentation depuis l'enfance. Et je suis en effet la fondatrice du cabinet de conseil Utopique qui accompagne la transition alimentaire pour le climat.
Ok, et on va du coup effectivement revenir un petit peu à tout ça. Quelle était la genèse, l'histoire, etc. Mais du coup, quel genre de petite fille tu étais?
Je dirais que j'étais, entre guillemets, ce qu'on appelle la bonne élève, donc avec toujours ce souci de bien faire. Donc, pas tout, enfin, petite fille, entre guillemets, qui a suivi un parcours scolaire assez classique, vraiment le sujet de rendre fiers mes parents et de bien faire les choses. Après, une petite fille qui était déjà passionnée par la nourriture, parce que j'ai dû commencer à cuisiner toute seule chez mes parents, à peu près vers l'âge de 10 ans. À utiliser le four, les plaques, chose qui me semble incroyable quand je regarde ma fille. Mais j'ai cuisiné assez tôt pendant les vacances scolaires, notamment avec une de mes cousines. Et donc, je passais déjà beaucoup de temps en cuisine, beaucoup de temps aussi à jouer. Et j'étais une passionnée de livres. Et avec ma maman, nous passions beaucoup de nos mercredis à la bibliothèque.
Passionnée de livres, donc cuisine et livres. Et j'imagine que ça devait aussi pas mal cuisiner chez toi.
Alors, le moment du repas était très important à la maison. Donc, c'était toujours un moment où on se retrouvait tous les quatre à table. Et souvent aussi le midi, que j'avais la chance dans mon enfance d'avoir des parents qui travaillaient à côté de la maison et d'être scolarisés également à côté. Et donc, on rentrait régulièrement tous les quatre à midi. Donc, le repas était un vrai moment d'échange. Donc, il y avait toujours un repas assez simple et rapide en semaine. Et par contre, le dimanche, c'est plutôt mon père qui se mettait au fourneau. Et c'était toujours des moments très gais parce qu'on avait toujours beaucoup de monde autour de la table à la maison.
Et t'as grandi où, toi, Sandra? En région parisienne?
Alors, on a beaucoup bougé. Je suis née à Clermont-Ferrand, donc mes premières années de vie étaient sur Clermont-Ferrand. On est arrivé ensuite en région parisienne et en région parisienne, on a également pas mal déménagé. J'ai fait quasiment tous les départements d'Île-de-France.
Ok. Donc, je comprends d'où vient ta grande adaptabilité.
C'est
Ça doit
ça.
compter, n'empêche, non?
Énormément. Je suis
Qu'est-ce
habituée
que
au
tu as
changement.
reçu? Tu t'es, ouais, habitué au changement, ouais, carrément. Qu'est-ce que tu as reçu comme valeurs vraiment familiales qui sont
Alors,
encore ancrées aujourd'hui?
la famille. Forcément. Enfin, mes parents sont tous les deux issus de familles nombreuses. Donc, la famille a toujours été quelque chose d'important à la maison. Le travail. Mes deux parents étaient entrepreneurs à leur compte. Donc, j'ai grandi quand même dans un milieu d'entrepreneurs et je pense que ça aussi, ça compte dans mon parcours. Donc, le travail, c'était assez important. Et puis, la générosité, l'accueil de l'autre, c'était vraiment la maison était toujours ouverte, voilà, aux voisins, aux copains, et il fallait surtout que le frigo soit prêt à nourrir des passagers imprévus.
Ok, en fait, de ce qu'on peut suivre sur Insta, on a quand même vachement l'impression que ça n'a pas changé.
Non,
C'est
c'est vrai.
J'ai l'impression que ta maison est toujours remplie de voisins, de monde, de copains. Puis de toute façon, tu es toujours au fourneau, tout le temps, tous les jours. Donc en fait, bah voilà, tu vois, tu as complètement. Remis les valeurs que tu as reçues au cœur de ton quotidien aujourd'hui.
Exactement. Et d'ailleurs, une fois, mon père m'a dit quelque chose qui m'a vachement marqué. Il m'a dit que la maison où on se sent bien sera toujours trop petite pour accueillir tous nos proches.
Ok.
Donc ça déborde toujours.
Ouais. Ah, c'est marrant. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite?
Alors, j'ai voulu, toute petite, je voulais être chirurgienne. Et après, j'ai voulu être avocate. J'ai d'ailleurs fait un doc de droit. Et puis finalement, non.
Que du coup, ma question suivante, c'était, t'as fait quoi comme étude? Donc, un doc de droit.
Donc, un doc de droit. Et du coup, pour la petite histoire qui va faire écho à ton intro sur le fait que je ne lâche rien. Donc, j'ai fait un bidoc droit espagnol que je n'ai pas validé. Néanmoins, pour moi, il était hors de question de perdre une année scolaire. Et donc, j'ai tout fait, j'ai négocié partout, j'ai frappé à toutes les portes pour passer directement en bac plus 3 en commerce, et c'est ce que j'ai obtenu. Ce qui peut penser
Génial.
incroyable.
Et tu sais quoi, ça m'étonne pas du tout.
Voilà. Donc, du coup, dans mon parcours, il y a quand même un DEUG qui n'a jamais été validé, mais j'ai continué mes études. Donc, je suis rentrée. Donc, le modèle de la fac ne m'a pas convenu, pas assez de cadre pour moi. Voilà, les cours en amphithéâtre, travailler seule, ça a été assez compliqué. Donc, j'ai intégré un DUT en commerce. Et ensuite, j'ai intégré ce qu'on appelle, on appelait, je ne sais pas si ça existe encore, un IUP, donc un IUP. Maîtrise, master 1 aujourd'hui, en gestion des entreprises avec une spécialité forte sur la création d'entreprises. Donc déjà, à l'époque, se posait la question de créer l'entreprise. Et pour la petite histoire, à ce moment-là, mon père était en création d'entreprise aussi. On a créé plusieurs dans sa carrière. Et du coup, pendant tout mon IUP, mon projet était d'accompagner la création d'entreprise de mon père, qui d'ailleurs, qui apporte qui d'ailleurs officiellement était à mon nom. Donc, une co-création familiale pendant mes études.
Ah, c'est marrant, c'était une entreprise de quoi?
C'était un garage automobile, donc avec une quinzaine de salariés quand il a vendu.
Ok, belle petite entreprise pour démarrer
Oui.
les études. Ok, et donc derrière ça, c'était quoi ton parcours professionnel?
Alors, dans le cadre de mon IUP, je l'ai fait en apprentissage.
Ouais.
Donc, j'avais intégré, alors c'était via l'école qui nous mettait en contact avec des entreprises. Je suis rentrée chez IBM France à l'époque. Et par le pur hasard, j'ai intégré le service paye au sein de la DRH d'IBM France. Et du coup, je suis restée. Suite à mes études, je suis restée chez IBM, toujours au service paye de la DRH. Donc, j'ai totalement appris ce métier. Et après, j'ai basculé en divers cabinets de conseil où j'ai accompagné la transformation digitale des DRH pendant quasiment 20 ans, jusqu'à intégrer un comité de direction il y a un peu plus de 11 ans maintenant. Donc, le comité de direction d'une entreprise du CAC 40, où je pilotais justement toute l'activité SIRH conseil en France. Donc, j'avais une centaine de collaborateurs en charge à l'époque.
Énorme.
Oui, et
Ok.
j'avais tout juste 30 ans.
Ah oui, bah oui, parce que c'était il y a 11 ans. Donc effectivement, ça fait on peut se sentir un peu jeune pour avoir ce genre de poste, mais j'imagine que tu t'es jamais forcément posé cette question-là, c'était plutôt assez évident.
Oui, alors j'ai toujours voulu monter les échelons. C'était à l'époque, en tout cas, ça a toujours été un objectif pour moi. Et je ne suis pas du genre, en effet, à réfléchir et à me poser des questions quand on me propose ce type de poste. Du genre à prendre et à foncer, puis on verra bien après. Parce que je pense que si on réfléchit trop, on ne fait pas les choses.
Et est-ce que tu peux du coup nous expliquer ce qui s'est passé derrière, ou plutôt quels ont été les moments forts de ton aventure professionnelle qui ont amené petit à petit à aujourd'hui finalement?
Durant mes années de conseil, j'ai régulièrement quand même changé d'entreprise. Parce que je suis quelqu'un qui voulait toujours que ça aille assez vite. Et donc, c'était toujours trop long pour moi. Donc, je changeais tous les 18 mois à 2 ans d'entreprise pour plus de responsabilités notamment. Jusqu'à arriver à cette entreprise qui a su me faire grandir au rythme dont j'avais envie. Et quand j'ai récupéré mon premier vrai poste, en tout cas de dirigeante. Alors, à la fois, ça a été un aboutissement, donc une vraie fierté, c'était très stimulant. Et en même temps, je me suis retrouvée avec un quotidien qui ne me correspondait plus du tout, qui était géré par le chiffre d'affaires et un taux de staffing de mes équipes. Donc, ça, c'était un premier sujet où finalement, j'avais perdu voilà, l'envie d'aller travailler le matin parce que finalement, c'était pas comme ça que je voyais le poste de dirigeant. Voilà. Ça m'amusait beaucoup moins. Et puis, peu de temps après, est arrivée ma fille. Et là aussi, ça a été une nouvelle prise de conscience. Ma fille est arrivée de façon prématurée. Donc, j'étais à 7 mois de grossesse. Et je pense que tout de suite, elle m'a montré qu'il fallait que j'arrête et que je me calme. Parce que d'un coup, j'étais pas encore en congé à maternité. Voilà, donc je me souviens encore sur la table d'accouchement, envoyer un SMS à mon patron qui lui disait « Je serai bien à Nantes lundi, ne t'inquiète pas ». Donc vraiment, je pense que tout de suite, elle m'a fait comprendre que j'avais besoin, que la vie, c'était pas ça, quoi, et qu'il fallait que je ralentisse. Et donc, j'ai pris le temps, en tout cas, de me poser des questions, mais je savais que autre chose m'attendait. Je ne savais pas quoi, comment, mais je savais qu'autre chose m'attendait. Donc, à mon retour de congé maternité, quelques mois après, j'ai posé ma démission et j'ai intégré un autre cabinet de conseil, mais avec beaucoup moins de responsabilités. Voilà, j'avais besoin, je pense, de moins de responsabilités, de prendre le temps de réfléchir, de voir peut-être. À ce moment-là, je ne savais pas. J'aurais très bien pu finalement m'épanouir à nouveau, retrouver un petit peu cette envie que j'ai pu avoir dans mes premières années de conseil, parce que j'ai adoré ce métier. Et puis finalement, ça n'a fait que accentuer le fait que j'avais besoin d'autre chose. Donc j'ai longtemps cherché. J'avais cette passion pour l'alimentation, donc toujours. Je passais beaucoup de temps en cuisine à la maison. En effet, on reçoit tous les week-ends le plaisir de recevoir, et donc j'ai commencé à m'enseigner d'abord pour moi, à me former un peu plus, à avoir des connaissances. J'ai beaucoup lu. Et puis finalement, j'ai décidé d'intégrer une école de naturopathie, mais sans vraiment savoir ce que j'allais en faire. Ça a été une vraie découverte, même si au début, c'était vraiment pour l'aspect alimentation. Tout ce qu'on peut étudier en naturopathie, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé l'approche passionnante. Et du coup, j'ai décidé d'en faire quelque chose et d'essayer de concilier un peu mes deux vies. Donc, je me suis beaucoup cherchée sur ces offres-là. D'ailleurs, tu m'as accompagnée sur le sujet. J'avais vraiment envie d'accompagner sur l'alimentation, mais j'ai tout de suite compris que la consultation en cabinet n'était pas pour moi. J'avais quand même besoin de garder ce lien avec l'entreprise, j'aime le collectif, j'aime l'animation de groupe. Et du coup, petit à petit, s'est dessinée l'offre utopique. Mais ça a pris beaucoup de temps. Et c'est pas fini, je pense.
Oui, c'est le début, mais en tout cas, le gros est posé, quoi. Enfin, voilà, tu as fait le tri avec ce que tu comptais faire de la naturopathie et comment tu allais amener la transition alimentaire. OK. Et du coup, une fois que tu as eu que ça a été un petit peu plus clair, quelles ont été les premières étapes pour te lancer finalement?
Alors, déjà, juste pour expliquer, j'étais déjà à mon compte parce qu'il y a une étape aussi de transition dans mon entrepreneuriat. C'est que quand j'ai décidé, en tout cas, que je voulais entreprendre et changer totalement de métier, j'ai quitté mon emploi de salarié et je me suis installée à mon compte déjà en 2019 dans le conseil en RH, ce que je faisais initialement. Donc, j'ai vraiment eu cette étape intermédiaire qui m'a permis à la fois de sécuriser financièrement un revenu et en même temps de me laisser la liberté d'organisation et la liberté de temps pour préparer la suite. Donc ça a été pour moi la première étape, que c'est vrai que ça peut faire peur aussi de se lancer un peu dans le vide. On a quand même besoin d'un revenu en fin de mois. Donc ça a été pour moi la solution transitoire pour préparer la suite tout en minimisant le risque en tout cas que j'ai pu prendre parce que j'ai pu effectuer des missions dans un contexte que je connaissais. Ensuite, une fois que j'ai pu poser tout ça, eh bien, on a travaillé ensemble, notamment sur mes offres. J'ai vraiment eu besoin de qu'est-ce que je voulais offrir, quelle était ma cible, qu'est-ce que je voulais proposer comme service et comment je voulais travailler. Donc ça, je pense que c'est aussi important quand on entreprend, c'est comment du coup on voit sa vie. Moi, clairement, je ne suis pas devenue entrepreneuse pour travailler plus qu'en étant salariée. Donc, dans mes prérequis, je savais que mes mercredis seraient off, je savais que je prendrais la moitié des vacances scolaires. Donc, de poser aussi ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas pour définir ses offres. Et après, trouver le bon modèle pour qu'il y ait quand même un business plan qui tienne la route avec tous ces critères. Donc, une fois que j'ai posé tout ça, la phase qui a été très compliquée pour moi, c'était de trouver un nom. Donc, c'est très difficile et c'est marrant. Mais sans le nom de marque, je n'arrivais pas à visualiser la marque et à avancer sur le sujet. Donc j'ai mis beaucoup de temps à la trouver. Et ce qui est assez marrant, c'est que finalement, le nom est venu tout seul à un moment où je ne l'attendais pas. Et justement, je pense à un moment où j'avais un peu mis ça de côté. J'étais en vacances en Italie, quand c'est devenu une évidence d'un coup sur la plage. Et donc, à mon retour de congé, je t'ai rappelé pour qu'on puisse travailler ensemble justement sur bah, le logo et l'univers de la marque. Et puis après, finalement, c'est comme si le puzzle se construisait tout seul, toutes les pièces étaient là et ça a découlé assez facilement par la suite.
Alors attends, parce que j'aimerais revenir sur déjà plein de petites choses. La première, qu'est-ce qui a été le déclic du nom sur la plage? Tu t'en souviens ou pas? Non, parce que souvent, en fait, tu vois, encore dernièrement, j'ai fait un challenge où je demandais justement aux inscrites qu'est-ce qui était leur problématique, etc. Et il y en a au moins 5 sur 80 qui m'ont dit qu'elle bloquait sur le nom, et parfois même ça faisait des mois, voire des années qu'elle ne s'était pas lancée parce qu'elle bloquait sur un nom. Alors du coup, qu'est-ce qui, toi, a été le déclic?
Alors oui, je m'en souviens. À ce moment-là, j'avais un sujet personnel qui me bloquait pas mal, mais je pense que je ne me rendais pas compte que ça pouvait me bloquer. Et ce jour-là, j'ai reçu un coup de fil et le sujet était débloqué. Voilà. Et donc, ça, après, ça a coulé de source et je pense que j'avais ce sujet-là qui m'empêchait d'avancer. Que ce sujet-là personnel soit traité comme si je m'autorisais à passer à autre chose. Et en effet, à pouvoir me lancer réellement, ça a été un vrai déblocage. Donc,
Ok.
comme quoi,
Ouais,
ça,
complètement.
des fois, ça ne tient pas à grand-chose.
Ouais, mais en fait, ça explique que des fois, c'est juste pas le bon moment.
C'est
Il faut
ça.
l'accepter. Parce que si tu t'étais peut-être forcé à prendre un autre nom, bah peut-être que l'histoire n'aurait pas été la même derrière, tu vois. Mais ok, donc ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'est que, donc on n'a pas forcément, on n'en a pas parlé, mais tu as un compte Instagram et tu es suivi quand même par pas mal de personnes depuis longtemps maintenant. Et je me souviens que ça a quand même été un gros sujet, puisque ton nom, je peux le dire ou pas, ton nom
Oui,
Instagram avant,
bien
c'était
sûr.
Cocotte, voilà, Cocotte et Naturo. J'imagine que tu l'as créé au moment où tu t'es formée en naturopathie ou même pas forcément.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et bah, c'est posé la question de est-ce que je vais changer mon nom et qu'est-ce que je fais de ce compte Instagram, comment je le relie à Utopique, enfin bon, bref, est-ce que tu peux essayer de clarifier un peu tout ça parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se posent ces questions-là. J'ai un nom, je le change, oulala, au secours, ça va être la cata. Et je me souviens, parce que je pense que ça va aussi avec, tu t'étais quand même posé la question d'utiliser ton nom à toi.
Tout
Bon,
à
ça fait
fait.
question en une, mais pour moi, tout c'est un nœud que tu as démêlé en fait, et tout ça est un peu lié.
À fait. Donc, en effet, je suis restée longtemps avec Cocotte et Naturo, qui a une belle communauté, mais qui ne correspondait plus du tout bah, en termes de nom déjà et d'image de marque avec ce que je voulais faire dans ma nouvelle vie professionnelle. Mon nom de société, donc, qui est Utopique, donc j'ai fait le choix de ne pas donner mon nom propre à mon entreprise. Donc, du coup, c'est beaucoup posé la question d'Instagram. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça devient utopique ou pas? Sachant que la cible utopique reste des entreprises et c'est clairement pas sur Instagram qu'ils vont venir me chercher. Donc, je me suis dit que ça n'avait pas forcément de sens pour eux. Et puis, en plus, j'avais quand même envie de garder une liberté de partager aussi des choses, d'être plus personnelle, de partager aussi mon quotidien d'entrepreneuse. Qui fait moins de sens quand c'est si le compte était au nom d'Utopique. Donc du coup j'ai fait le choix après beaucoup de réflexion de transformer ce compte et de le mettre en mon nom propre, donc Sandra Puntina. Et donc c'est un compte où je continue à partager des recettes, à donner des conseils en alimentation durable. Et puis je vais faire de temps en temps des ponts avec Utopique, notamment à partager mes actualités en termes d'offres, mes nouveaux ateliers que je peux proposer pour Utopique. Mais j'ai bien distingué les deux. Parce que de toute façon, la cible utopique ne se trouve pas sur Instagram. J'ai d'ailleurs une page LinkedIn pour Utopique qui est dédiée à qui est plus dédiée à ma cible.
Ok, c'est clair. Et donc, ton ambition avec Utopique, c'est quoi?
Alors, utopique, déjà, pour expliquer un petit peu le nom, c'est la contraction de l'utopie et du pic pour le pic de la fourchette. Et c'est l'idée qu'on peut justement faire d'une utopie une réalité et que repas après repas, on peut changer le monde. Donc, c'est un peu l'idée d'utopique et c'est justement de pouvoir donner les clés à tout le monde d'une assiette plus responsable pour soi et pour la planète.
Et est-ce que donc toute cette histoire, tu as réussi à la poser d'un coup, ou est-ce que encore aujourd'hui tu sens que tu as besoin de poser un peu les bases du topic?
Alors, une chose que j'ai bien appris pendant depuis que je suis entrepreneuse, c'est que finalement, la stratégie d'une boîte, elle évolue constamment. Et que si on attend d'avoir quelque chose d'assez clair, et ben, en fait, on procrastine et on n'agit pas. J'ai Utopique aujourd'hui à une offre qui est posée. Je pense que ça ne sera pas la même dans un an et encore moins la même dans 5 ans. Et parce que c'est la vie d'une entreprise. Aujourd'hui, il y a une offre, c'est une offre de départ, mais je suis déjà en train de poser plein de questions sur comment ça va évoluer. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut apprendre à faire quand on entreprend, c'est accepter tous ces moments de remise en question constant, en fait, de doute, d'ajustement, parce que c'est ça aussi qui fait l'entreprise.
Hyper intéressant. Et j'imagine que tu te poses aussi éventuellement cette question par rapport à l'offre, mais aussi très certainement par rapport à la cible. Peut-être que ça va évoluer aussi et que tu te laisses la flexibilité de pouvoir changer et évoluer. Pas te sentir, je pense aussi que c'est important de ne pas se sentir enfermé, tu vois, dans une case ou derrière. On serait plus géré par des contraintes que par ce dont on a vraiment envie. Ce qui peut faire que parfois on est désaligné d'ailleurs, peut-être, à être trop fermé, à avoir une stratégie trop rigide.
Ouais, je suis d'accord et vraiment, je pense que je recommande vraiment, c'est surtout de passer à l'action parce que du coup, moi, je me rends compte que j'ai une offre qui est très ciblée direction RSE et DRH des entreprises. Néanmoins, le fait de faire des choses, de faire des ateliers, de faire de la prospection, eh ben, j'ai de plus en plus de monde venant d'écoles qui n'étaient pas du tout ma cible. Et en fait, c'est hyper, hyper intéressant et passionnant d'apprendre ces sujets-là des enfants de tous âges. Et donc finalement, ce n'était pas du tout prévu et que je pense que si je n'avais pas commencé à faire quelque chose, c'est une cible que je n'aurais pas du tout identifiée.
Ouais, ok. Donc, hyper intéressant. Et quelle a été la place de ton univers visuel, de ton identité visuelle, mais aussi de toute la déclinaison du wording dans ta marque? Quelle place t'as accordée à tout ça?
Alors, moi, c'est hyper important. Tout comme, en fait, ça va avec le nom, c'est que quelque part, c'est ce qui donne vie au projet. Je pense que je n'aurais pas pu vraiment me lancer dans l'aventure sans avoir quand même un nom et une identité visuelle qui me correspond. C'est aussi, je pense qu'on apporte de la cohérence à ce qu'on fait. Et puis, c'est aussi un moyen entre guillemets, d'être fière et d'oser parler de notre projet, oser en parler à ses clients, parce qu'on sait qu'on a fait quelque chose qui est de beau. Donc on est content de partager.
Et qui est professionnel. Et il y a aussi un côté plus professionnel, j'imagine.
Oui, tout à fait.
Surtout quand on a, enfin surtout d'une manière générale, mais encore plus quand on a une cible B2B, quand on va aller parler à des grands comptes, on a vraiment, j'imagine, pas la même pression d'une identité visuelle que si on va parler aux particuliers.
Bien
Il y a ce
sûr,
côté
il faut qu'on rassure
très.
quand même.
Ouais. Ok. Est-ce que au moment où du coup donc tu as commencé à avoir l'identité visuelle, que les choses étaient beaucoup plus claires, que ton offre était en train de se dessiner, ça a été quoi derrière les étapes pour justement là avoir un maximum d'impact pour te faire connaître? Petite question, est-ce que tu continuais à ce moment-là ou est-ce que tu continues toujours tes missions en ressources humaines ou est-ce que tu as arrêté ça?
Je
Enfin,
continue toujours,
ouais, tu
à
continues.
date, voilà, toujours dans cette phase de transition.
Transition, ouais.
Je ne sais pas combien de temps ça durera, on verra bien. Mais je continue toujours. Et d'ailleurs, j'ai un partenaire qui m'accompagne, avec qui je travaille beaucoup sur cette partie-là, et qui soutient mes nouvelles offres. Et notamment, un moment important pour moi, c'est que, ils m'ont un peu bousculée parce qu'ils m'ont proposé assez rapidement de présenter Utopique à leur comité de direction. Donc, ça a été une étape hyper importante parce que c'était le saut dans le bain. Déjà, il fallait que j'avais une présentation qui soit claire, professionnelle, terminée. Puis, on m'avait mis une deadline. C'est quand même assez dur quand on travaille tout seul parce qu'on doit se mettre ces deadlines. Puis, c'est facile de les repousser. On n'a personne pour nous dire qu'on ne peut pas les repousser. Donc, c'est facile de décaler dans la to-do plus tard. Et là, ils m'ont mis une deadline. Donc, j'ai été au rendez-vous en présentation. Et puis, c'est aussi se jeter dans le bain et oser présenter son nouveau bébé, oser expliquer ce qu'on souhaite faire. Et en plus, à des gens avec qui je travaille depuis plus de 15 ans. Donc, qui avait aussi un autre regard sur moi et sur ce que je pouvais faire professionnellement. Et ça a été une première étape hyper importante parce que ça m'a totalement décomplexée. Et je me suis dit, bah, ça y est, maintenant je peux prospecter, quoi. Je peux en parler. Je l'ai fait. J'ai passé un peu le grand oral. C'est bon. Donc, ça, c'était une première étape de me jeter dans le bain. Après, forcément, leur retour aussi, parce que je me suis quand même adressée à des entrepreneurs qui ont créé leur structure il y a quelques années, une belle structure, et leur retour aussi était intéressant. Et en continuant de prospecter, vu le retour aussi, l'écho que ça pouvait faire aux différentes personnes que j'avais au téléphone ou que je rencontrais, ça m'a permis aussi d'adapter mon offre. Et de me rendre compte notamment que j'avais sûrement quelque chose au début qui était trop ouvert. Et que finalement, sur ce type de sujet, j'avais besoin d'apporter des choses beaucoup plus standardisées. Et donc, j'ai retravaillé l'offre en construisant une offre qui suit le calendrier RSE des entreprises. Et donc, c'est à chaque moment fort de l'année, il y a des offres associées. Et du coup, c'est vrai que pour eux, je pense que sur ces thématiques-là, ils avaient besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus concret, de comprendre ce que j'allais faire quand. Et ça, c'est beaucoup plus fluide aujourd'hui.
Alors que si tu avais attendu d'avoir des offres parfaites selon toi et que tu serais allé et que tu aurais pu mettre des mois à travailler
Ah, mais
dessus,
oui.
à faire tous les visuels, à faire toutes les prises, à faire des trucs, même à imprimer des supports et que tu serais allé derrière présenter et on t'aurait dit, bah en fait, non, c'est pas ça qu'on veut. Et là, il n'y a plus que des yeux pour pleurer.
Exactement. Donc, des fois, il faut un peu se faire violence et puis il faut oser parler de son projet et d'ajuster après.
Ouais, c'est hyper important. Ok, et donc du coup, et ça c'était quand cette présentation?
C'était en mars 2023.
Ok, donc c'était il y a bientôt un an.
Oui.
Et alors, depuis, qu'est-ce que tu as
Donc,
mis en
de.
place? Ça a été quoi les étapes, tu vois? Comment tu fais pour avoir plus d'impact et de visibilité? Comment tu travailles un peu ta stratégie commerciale, tout ça?
Alors déjà, les étapes, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de prises de conscience sur, en effet, fallait que je cadre autrement mon offre. Et puis aussi en termes de posture, parce que je restais beaucoup dans ma posture de la consultante RH. Et
Important ça.
finalement, que j'avais besoin d'apporter autre chose, que j'arrivais en entreprise sur des sujets autour de l'alimentation, que je ne pouvais pas les traiter de la même façon, qu'il fallait aussi apporter les personnes qui viennent à mes ateliers, à mes formations, ils sont là bien sûr pour apprendre, pour se sensibiliser, parce que le sujet est important, mais c'est aussi des bouffées d'oxygène dans leur quotidien. Et donc, besoin aussi d'apporter quelque chose de plus frais, de plus ludique dans mes interventions. Et donc, il y a eu plusieurs étapes. J'ai retravaillé mon offre et je me suis formée, fait accompagner dans tout ce qui est autour de la ludopédagogie. Donc, et j'ai pu mettre en place notamment une formation phare qui est une journée pour maximiser l'impact de notre assiette. Et en fait, c'est une journée autour de jeux, de rôles. On est vraiment dans la ludopédagogie où les personnes vont comprendre l'impact de l'assiette avec l'empreinte carbone et vont pouvoir savoir concrètement en sortant de là comment composer leur assiette, que ce soit à la maison, au restaurant d'entreprise, à l'extérieur, assez facilement et tout tourner autour du jeu. Donc ça a été aussi une étape importante. Je ne fais plus de PowerPoint de présentation. Donc ça a été une étape importante dans mes offres. Et ça marche super bien. Et puis après, bah, c'est comme, je pense, quand on est passionné par nos sujets, on a toujours envie de se former, d'aller un peu plus loin, etc. Donc j'ai aussi intégré à l'école Comestible, qui est une association qui propose des parcours au sein des écoles sur l'alimentation durable. Donc j'ai pu les intégrer. Il y a quelques mois, maintenant. Et donc là, j'interviens sur des ateliers auprès d'enfants ou de jeunes adultes sur la sensibilisation à l'alimentation durable. Et bah, tout récemment, j'ai également intégré le projet d'automne, qui est un atelier immersif pour préparer son scénario de transition d'ici 2050, l'objectif d'arriver à 2 tonnes de CO2 par an. Je serai d'ailleurs certifiée animatrice professionnelle dans quelques jours. Donc, ça sera un outil supplémentaire à proposer à mes clients. Donc, du coup, il y a eu vraiment mes offres que j'ai posées, des nouvelles méthodologies, m'appuyer aussi sur des outils complémentaires et après la prospection. Donc, la prospection, il n'y a pas de secret, ça peut être fastidieux. Dans un premier temps, c'était vraiment m'appuyer sur mon réseau, parce que je pense que c'est quand même le plus simple pour démarrer, de prospecter via le réseau. Et puis après, retour aux bases de la prospection. Donc, j'ai mon CRM et puis fil, mail, et je fais des sessions de prospection.
Ok, de toute façon, c'est ce que j'explique en ce moment aux personnes que j'accompagne. Je leur dis, de toute façon, y a pas 36 solutions. Tu as le temps pour installer et communiquer ta marque et te rendre visible. La création de contenu, c'est génial et tu peux la travailler en parallèle, mais tu as besoin de ramener de l'argent demain. C'est de la prospection. Et ça peut être aussi fun, mais il y a un temps pour te faire connaître et finalement créer ta visibilité sur de la longue durée ou du court terme. Et le court terme, c'est la prospection. Il n'y a pas de 36 solutions. Tu prospectes aussi sur LinkedIn ou tu te sers exclusivement vraiment de ton réseau plus proche, perso et pro?
Alors beaucoup bien sûr mon réseau parce que j'ai quand même 20 ans d'accompagnement en DRH, donc beaucoup autour de mon réseau et puis également LinkedIn en effet, mais c'est plutôt LinkedIn, j'approche des personnes que j'ai pu croiser sur un salon. Sur une conférence, et du coup, je vais prendre le contact et je vais recontacter par LinkedIn.
Et tu nous as pas parlé de la certification que tu as aussi en étant coach. À quel moment tu t'es formé?
Alors, oui, je me suis formée quelques temps après ma formation de naturopathie, parce que c'était quelque chose qui me frustrait un peu dans la formation en naturopathie, c'est que il y a ce côté, l'objectif c'est de rendre autonome le consultant qui vient nous voir, mais du coup, entre guillemets, on va nous dire, j'extrapole un peu, comme on doit le rendre autonome, il ne doit pas revenir nous voir parce qu'il est censé être autonome. Mais du coup, on va avoir tendance, en tout cas, j'avais cette tendance-là quand j'avais commencé par quelques consultations, à donner des tonnes de recommandations, en disant, faut que je donne tout, faut qu'il soit au courant de tout pour qu'il soit autonome. Et du coup, ça peut être ultra anxiogène pour le consultant qui se prend ça, en disant, mais je veux changer dans ma vie, c'est pas possible. Et en fait, bah, ils font pas. De toute façon, ils reviennent pas non plus parce qu'on les a un peu découragés. Et en tout cas, pour moi, il me manquait la méthodologie d'accompagnement pur et que ce soit plus par étapes, soit plus cadré. Et donc, j'ai cherché une formation, mais de coach santé. Donc, ça n'a pas été simple parce que c'est des formations qui sont très, très en vogue aux États-Unis. Et donc, moi, je voulais une formation francophone. Je pense que je n'étais pas assez à l'aise avec l'anglais pour suivre une formation comme ça, à distance en plus, dans une langue étrangère. Donc, ça n'a pas été simple et j'ai trouvé du coup une formation qui est à Genève avec des sessions sur Paris. Et donc, j'ai fait ça après. Et là, c'est vraiment du coaching santé. Donc, il y a un tronc commun sur la méthode de coach. Où là, on est plutôt, voilà. Et là, pour le coup, la méthode de coach, on est vraiment par une enveloppe de séances parce qu'il y a un enjeu. On avance petit pas par petit pas. avec une spécialisée forte, du coup, tout ce qui est autour de la santé, de l'équilibre de vie de façon générale. Mais ce que je recherchais, c'était vraiment ça. Et en effet, c'est l'ensemble de toutes ces casquettes qui font aujourd'hui les offres utopiques. Parce qu'il y a bien sûr la compétence fond en naturopathie, il y a ma capacité d'animer un groupe, de ma casquette de consultante, et puis il y a le coaching où je vais avoir justement de la méthode pour pouvoir accompagner le changement petit à petit et les faire passer à l'action.
Ok, je comprends effectivement la complémentarité de tout ça. Et est-ce que tu peux nous partager tes fiertés depuis le lancement d'Utopique ou même globalement finalement? Est-ce qu'il y a des choses où vraiment tu te dis, ouais, là quand même, je suis fière parce que c'était pas facile, par
Alors,
exemple?
oui, déjà se lancer à son compte, hein, malgré tout, c'est pas simple d'oser se lancer. Donc ça a été une fierté. La fierté du premier salaire aussi, parce que ça n'a rien à voir avec un virement envoyé par un patron sur ton compte en banque. Le fait de toi-même aller prendre sur les comptes de la société, de faire ton virement sur ton compte personnel, c'est une grande fierté. Une grosse fierté aussi de réussite, c'est que du coup, il y a un peu plus d'un an, nous avons acheté une maison et d'avoir, c'est tout bête, hein, mais le papier de la banque qui atteste que ma société est, enfin que les revenus de ma société me permettent de faire un crédit. Donc ça, c'était aussi une grosse fierté parce qu'on a aussi, quand on se met à son compte, il y a aussi une famille derrière, donc faut déjà être soutenu par sa famille, mais on n'a pas non plus, au-delà, même si elle nous soutient, on n'a pas non plus envie de bloquer les rêves et les envies de tout le monde parce qu'on a décidé de suivre les siens. Donc, ce n'est pas toujours évident. Donc, ça, c'était une fierté. Et puis, l'autre fierté, c'est d'arriver à maintenir les mercredis off avec ma fille et la moitié des vacances scolaires. Et donc, cet équilibre familial qu'on a trouvé et qu'on n'aurait pas, enfin, qu'on n'avait pas du tout quand j'étais salariée. Et puis, il y a 18 mois, mon conjoint s'est également mis à son compte. Donc, on a doublement aujourd'hui trouvé un équilibre et une liberté d'organisation familiale.
Bravo. Et aussi la fierté d'avoir une boîte qui mène un sacré combat.
Oui.
Parce que faut quand même aussi le dire, c'est j'imagine à quel point tu dois te prendre pas des portes, mais c'est quand même un sujet qui, pour encore beaucoup de personnes, n'est pas si important que ça. Même on aurait tendance à croire que, enfin, à faire beaucoup d'amalgame, en fait, j'ai l'impression, tu vois, le sujet de l'alimentation d'une manière générale.
Oui, alors l'engagement est vraiment un fil conducteur de ma vie entrepreneuriale. Et déjà, dans mes missions RH, avant de lancer Utopie, j'avais fait le choix que ma société rejoigne 1% for the planet, dont je reverse tous les ans 1% de mon chiffre d'affaires à l'association. Donc ça, c'était hyper important pour donner du sens à ce que je faisais. Après, avec Utopie, le sens, il est là dans les offres utopiques parce que accompagner la transition alimentaire, enfin, l'alimentation, c'est 25% de notre empreinte carbone après les transports. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris sans changer son assiette. Donc certes, je suis d'accord, pour beaucoup de monde, ça reste encore un sujet pas assez important. Et du coup, il est urgent et hyper important de sensibiliser et d'accompagner cette transformation. C'est aussi pour ça que je me suis engagée auprès l'école comestible en tant que bénévole d'abord, parce que ça va commencer par les nouvelles générations, donc d'aller au sein des écoles pour expliquer ce que c'est que l'alimentation durable et comment on peut bien manger, se régaler tout en faisant attention à la planète. Et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint l'automne. Donc il y a une vraie culture de l'engagement dans ce que je fais. Et c'en est même, je dirais, c'en est même entre guillemets un peu vital, dans le sens où on vit aujourd'hui un vrai changement climatique. De toute façon, on le vit déjà, on est en plein dedans. Et j'ai un vrai besoin en fait d'être active sur le sujet et de me bouger sur le sujet, parce que j'aurais le sentiment que de ne rien faire, c'est un peu me regarder mourir en fait. Donc besoin en tout cas d'être vraiment partie prenante des enjeux qui nous attendent.
Et je suis hyper contente en t'invitant aujourd'hui. Je me dis, allez, ça fera toujours des personnes qui vont pouvoir bah, se rendre compte que c'est un sacré combat et d'aller vraiment voir ce que tu fais parce que je trouve ça hyper important. Moi, y a, et c'est pas le sujet aujourd'hui du tout, mais il y a un truc qui me sidère, c'est encore ce qu'on sert dans les cantines des enfants, tu vois. Enfin, mais bon, après, tu peux pas être sur tous les combats à la fois. Je pense que ça, c'est encore autre chose, mais en tout cas, franchement, bravo. Comment est-ce que tu arrives à organiser tes journées avec tout ce que tu fais? Tu fais partie d'assos, tu reçois tous tes voisins en permanence. Tu cuisines tout le temps. Tu as plusieurs boulots, en fait, hein, faut le dire, en plus de driver Utopique. Tu as ta famille, une grande maison à gérer. Enfin, tu vois comment un mercredi off, j'imagine que le soir, tu arrives à couper aussi, le
Oui.
week-end aussi. Comment tu fais? Parce que je trouve que c'est intéressant aussi de voir un peu des organisations, tu vois, des unes, des autres.
Alors, je suis quelqu'un de très organisé, et ça depuis, je pense, mon enfance. Hein. Et j'ai une organisation très millimétrée quand même. Il ne faut pas se cacher, il n'y a pas de secret non plus. Donc, j'ai alors déjà en début d'année, si j'essaie. Début d'année, je construis mes objectifs de l'année que je souhaite faire, qui répond un peu à ma vision de vie. Parce que pour moi, entreprendre, ce n'est pas juste se construire un job, hein, c'est vraiment construire une vision de sa vie, ce qu'on souhaite faire dans sa vie. Et donc, j'ai mes objectifs à l'année que je vais planifier sur les différents trimestres. Donc, ça, c'est mes grandes thématiques, là où je veux aller. Après, il y a le quotidien, il y a les to-do qui se remplissent d'un peu partout. Donc, donc, tous les mois, je fais un peu le point sur ce que je veux faire chaque mois. Mais surtout, ce qui est important pour moi, c'est la préparation de ma semaine, qui vraiment me permet justement de concilier l'ensemble. C'est-à-dire que tous les vendredis soirs, enfin, les vendredis après-midi, je vais planifier ma semaine. Donc, je vais noter clairement. Donc, dans mon agenda, j'ai toutes les réunions, les rendez-vous clients, enfin, tout ce qui je ne peux pas bouger. Je me mets à côté tout ce que je suis censée faire. J'estime le temps que ça va me prendre. Je regarde le temps que j'ai réellement disponible dans mon agenda. Si ça ne matche pas, soit j'annule des rendez-vous, je décale des réunions ou autres, soit j'enlève des choses dans ma to-do et je les décale. Mais je fais vraiment en sorte d'avoir dans ma liste des tâches que des choses que je suis en capacité de réaliser. Et déjà, ça évite la frustration de « j'ai pas fait ma to-do ». J'ai pas tout fini, ce qui est hyper, hyper difficile à vivre. Toutes les semaines, on n'a pas tout coché. Donc, et puis, point aussi important, c'est que du coup, le jeudi après-midi, c'est un temps que je garde pour justement traiter les retards, les imprévus qui auraient pu avoir lieu dans la semaine. Je les
C'est
garde
ton
jeudi
tampon.
après-midi. Voilà, c'est mon tampon qui est hyper important parce qu'en effet, ne travaillant pas le mercredi, j'ai des journées en général lundi et mardi qui sont très chargées. Donc, je fais essentiellement là ma production, mes rendez-vous clients, plus le jeudi matin. Mais en tout cas, j'ai des jours très chargés pour être tranquille le mercredi. Le jeudi matin, le jeudi après-midi, je sais que j'ai cette étape de tampon si besoin pour finir. Le vendredi matin est consacré plutôt à mes points de suivi sur mes différents projets et avec mes clients. Et le point justement de suivi de moi, de ce que j'ai à faire, etc. Dans l'idéal, j'aime bien ne pas avoir de rendez-vous le vendredi après-midi pour pouvoir justement se laisser du temps, ce qui est très difficile en tant qu'entrepreneur, pour travailler sur ses offres, pour construire de nouvelles offres, pour penser au projet, etc. Mais ce n'est pas toujours facile à tenir.
Ouais, le vendredi après-midi, c'est autant la planification de la semaine qui arrive que sortir un peu la tête de son quotidien et essayer de voir la partie plus je ne suis pas dans l'entreprise, mais je travaillais sur l'entreprise, quoi.
C'est ça.
Eh bien, c'est un sacré programme. Non, mais
Mais
comme
après.
tu dis, enfin, je pense aussi que parfois, bah, il n'y a juste pas de miracle, en fait, hein, quand on a réussi à être une mitrailleuse d'objectifs. Bah, voilà, je pense qu'à un moment donné, comme tu dis, il n'y a pas de secret. L'organisation, on a beau dire, c'est le nerf de la guerre
Un peu,
de
oui.
l'entrepreneur.
Ça, plus les chiffres, quand même.
Oui, quand tu parles d'objectifs à l'année, on est d'accord que c'est des objectifs, tu sais combien de chiffres d'affaires tu veux faire, combien de ventes il faut que tu fasses au
Aussi,
trimestre, au mois.
oui. Tout à fait. Et l'autre sujet qui m'aide beaucoup, c'est que je me fais toujours coacher. Donc, j'ai eu la chance, quand j'étais salariée, de toujours avoir eu des coachs mis à dispo par mes différents employeurs. Et donc, c'est quelque chose qui, au début, m'a beaucoup manqué quand je me suis retrouvée à mon compte et j'ai eu du mal à comprendre. Je me suis dit, bah oui, j'ai plus de coach, forcément. Donc, je me fais, voilà, toujours, j'ai toujours coaché ou dans des programmes de coaching tout le temps. Et ça m'aide aussi à beaucoup à garder le cap, à poser aussi les choses. Donc, j'ai notamment, je suis coachée par Ginny, que tu as reçue sur ton podcast
Oui.
récemment.
Tu as fait le programme
Oui, j'ai
avec
fait le
elle
programme avec
et...
elle. Et du coup, de toute façon, je continue avec elle et je pratique du coup de l'auto-coaching tous les matins. Et ça, c'est des outils hyper puissants pour aussi bien cadrer ses journées. Et je pense que Jenny est un bel exemple de la capacité qu'on a à réaliser ses projets, ses rêves.
Auto-coaching le matin, c'est-à-dire...
Alors, je pratique ce qu'on appelle le flow de pensée, donc avec un cahier. Où je
Ah,
vais
pas mal.
écrire voilà, ce qui me passe par la tête, et après je vais attraper une des phrases que j'ai pu écrire, et puis je vais m'auto-coacher sur cette phrase pour la décortiquer et comprendre un peu ce qui se passe ou ce qui peut me bloquer.
Ok. C'est ce que j'appelle moi le journaling, mais c'est vrai que c'est de l'auto-coaching puisque depuis que j'ai commencé à faire ça, tu vois, ça devait être. Enfin, avant, je le faisais naturellement et j'ai commencé à le faire. En fin d'année, et ça m'a débloqué plein de trucs. Tu vois, comme si j'ai redécouvert la magie de l'écriture.
Ouais, c'est hyper puissant.
Hyper puissant. Ok, top, parce que c'était une question que j'allais te poser, parce que je sais que tu as suivi la formation de Jenny Chamas. Je ne savais pas que tu continuais, que tu poursuivais avec elle en individuel, du coup, j'imagine,
Non,
ou
je suis
toujours en
pas en
groupe.
individuel avec elle.
C'est
Mais elle a
toujours en groupe.
différents, en fait, elle a différents programmes.
D'accord. Ok. Et ok, super. Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce qui... Enfin, je dis à l'inverse, mais parce que si on rembobine ma question là, juste avant, c'était tes fiertés. Donc, à l'inverse. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Est-ce qu'il y a eu des leçons à retenir? Je sais pas, des choses peut-être que tu souhaiterais partager depuis tes débuts?
Alors oui, des moments difficiles, je pense qu'il y en a tout le temps quand on entreprend. Ça fait partie du chemin. Difficile, c'est que je pense que j'ai encore du mal. Je pense que ça va jamais assez vite pour moi. J'aimerais que Topic grandisse beaucoup plus vite. Mais après, ça va avec l'ensemble. Ça va. Enfin, faut aussi accepter que ça prenne plus de temps quand on souhaite un équilibre de vie, quand on ne travaille pas à temps plein. Donc, il faut aussi accepter. Donc, voilà, l'idée n'est pas de travailler tous mes soirs et mes week-ends. Donc, forcément, ça prend plus de temps, mais ce n'est pas toujours simple à accepter cette partie-là, le temps nécessaire d'entreprendre. Moment aussi un peu difficile, enfin, des leçons aussi de 2023, même si je le savais, je pense que je l'avais un peu trop mis de côté depuis que j'étais entrepreneuse. C'est bah, la gestion financière d'une entreprise. C'est vraiment un sujet qu'un entrepreneur n'aime pas forcément, parce qu'on est souvent des passionnés par notre métier. Et les chiffres, enfin, quand on travaille par passion, donc on n'a pas trop envie de regarder ça, mais quand même. Et j'ai vraiment compris en 2023 que je devais beaucoup plus mettre bah, le nez dans les chiffres et ne pas laisser ça qu'à mon comptable. Et donc que la maîtrise, enfin, qu'un des secrets de durabilité de mon entreprise sera la maîtrise de mes chiffres. Donc ça, c'est un sujet, j'y vais à reculons, mais que j'ai bien compris en 2023.
Qu'est-ce qui t'a fait comprendre ça? Tu vois, cette histoire de chiffres, est-ce que c'est parce qu'il y a eu un sujet particulier? Est-ce que c'est parce que, comme tu es coaché aussi, on t'a fait mettre le doigt là-dessus? Est-ce que, tu vois, comment tu as eu ce recul-là? Et du coup, qu'est-ce que tu mets en place pour travailler ça?
Alors, je l'ai compris parce qu'en 2023, c'était réellement le lancement du topic et que du coup, volontairement, j'ai forcément diminué mes activités en RH afin d'avoir le temps de préparer et lancer Utopic. Et alors, je l'ai fait sans pour autant préparer et valider la sécurité financière de la société. Et j'ai été assez mal à l'aise du coup en pilotage de mes activités toute l'année. Et que je me suis rendu compte que c'est pas non plus le job d'un comptable, voilà, qui fait ma compta, certes, mais où je n'ai pas vraiment de conseils en termes de gestion financière, de pilotage d'entreprise, etc. Et j'ai eu l'impression de naviguer quand même à l'aveugle toute l'année et c'était assez désagréable. Et du coup, je me suis dit, non, vraiment, c'est pas possible, je dois être en capacité de comprendre les chiffres, de mieux anticiper, de savoir. Jusqu'où je peux réduire mon chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, ça a été ma leçon 2023 et que c'est pas le job de mon comptable, c'est le mien.
Et tu n'as pas cherché à essayer de justement de trouver quelqu'un qui pouvait t'aider sur toute cette partie?
Si, j'ai même rencontré quelques personnes, donc c'est quelque chose que j'ai en tête, que j'ai pas encore mis en place, mais c'est en effet un sujet qui me trotte dans la tête et j'ai pu échanger avec quelques personnes dont c'est le métier.
Ok, intéressant. Quelles sont tes ambitions pour demain ou où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Ou même dans 5 ans, ou même dans un an, je sais pas.
Déjà, c'est de faire grandir Utopique. Donc ça, c'est hyper important pour moi parce qu'en effet, c'est un message qui est important que je veux qu'on puisse diffuser au plus grand nombre. Accompagner un maximum de personnes vers cette transition et du coup d'apporter ma pierre à l'édifice du changement que la société va devoir faire. J'aimerais aussi du coup que Utopique devienne dans quelques temps une société à mission pour donner encore plus de sens à ce que je fais aujourd'hui et voilà, pour asseoir un peu cette notion d'engagement qui me porte pas mal. Ensuite, il y a toujours ce souci d'équilibre de vie, donc toujours en train de rééquilibrer justement cet équilibre, donc d'arriver à maintenir l'équilibre familial qu'on a pu trouver et de ne pas se laisser à nouveau happer trop par le pro ou par le perso d'ailleurs, mais d'arriver à trouver cet équilibre et cet épanouissement global. Et puis un autre sujet qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir, je ne sais pas encore sous quelle forme ça prendra, mais justement de pouvoir aider aussi les femmes à se lancer et à oser entreprendre.
Ah, c'est nouveau ça, j'étais pas au courant. C'est chouette. Ok. Et je voulais te demander, parce que du coup, c'est une question que j'ai posée forcément à Jenny Chama sur l'ambition. Je ne pouvais pas la poser à quelqu'un d'autre. Mais toi, tu es quelqu'un d'ambitieuse aussi. Et je voulais savoir d'où finalement te venait cette ambition. Tu vois, l'idée de réussir à tout ce que tu entreprends ou de pas laisser le choix. C'est comme si tu donnais l'impression de pas laisser le choix de l'échec, en fait, tu vois?
C'est exactement ça. C'est marrant que tu me le dises comme ça. Ça vient de mes parents. Voilà, clairement. Pour la petite histoire, quand on est monté à Paris, donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de boulot en province. Et puis Paris, c'était un peu l'Eldorado. Et donc, on est monté à Paris. Moi, j'avais 6 ans. Ma soeur en avait 4. Mes parents ont vidé leur compte en banque pour acheter 4 billets de train. Et on est débarqué comme ça. Donc, ça a été une vraie aventure et je pense qu'ils nous ont montré que il n'y avait pas de fatalité dans la vie et qu'il fallait justement se battre. Donc, mes parents étaient toujours à leur compte. Mon père a fermé des boîtes, on a réouvert d'autres. Donc, on a aussi, je pense, eu cette notion que l'argent, c'est bien, et ça va et ça vient, et qu'on peut toujours s'en sortir. Et voilà, ça, je pense que cette volonté d'y arriver et surtout de faire ce qu'on a envie de faire et de s'amuser dans la vie. Et je pense qu'eux-mêmes le tenaient de leurs parents qui ont fui la dictature portugaise il y a plusieurs années.
C'est chouette. Et du coup, si tu devais donner tes meilleurs conseils pour entreprendre sereinement, il y a beaucoup de... Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, j'ai retenu, l'argent, ça va, ça vient. Mais souvent, l'argent est pratiquement, on va dire, ce qui pourrait être le plus bloquant pour les personnes qui veulent entreprendre ou qui entreprennent et qui sont dans des phases difficiles. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil?
Alors, vaste sujet. Alors, c'est sûr que c'est toujours plus facile quand on n'est pas seul, qu'il y a un autre revenu quand même dans le foyer. Néanmoins, alors moi j'ai eu la chance quand j'étais salariée d'occuper des postes où j'avais des revenus confortables. Et de ne jamais avoir vécu avec ces moyens-là. Donc, j'ai toujours vécu en deçà de mes moyens. Et donc, je pense que ça, c'est aussi important de savoir se recentrer et finalement sur l'essentiel. Et que souvent, on a besoin de moins que ce qu'on a pour vivre. Et donc, ça, on l'a aussi bien appris. On le met beaucoup en pratique, ce qui fait qu'on arrive quand même à gérer les variations de salaire. Donc, il y a eu cette façon de vivre, de toute façon, que je tiens aussi sûrement de mes parents, parce qu'il y a eu beaucoup de fluctuations aussi à la maison. Et après, moi, mais ça a été ma solution à moi, ça a été de m'installer d'abord sur une activité sur laquelle j'avais de l'expérience, j'avais du réseau, qui m'a permis d'assurer un salaire dès mon premier mois d'entrepreneuriat. Mais après, en effet, à minima, en tout cas, profiter de son chômage pour se lancer. C'est quand même aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le faire en France. Donc, profiter de son chômage pour se lancer. Moi, j'ai vraiment profité de ça parce que souvent, on arrive au chômage, on se lance dans ses formations, on cherche son projet et finalement, quand on se lance, on a la fin de ses droits. Donc, ça aussi, donc profiter du moment où vous êtes en poste pour réfléchir à votre projet, pour vous former le soir, le week-end.
Ouais, de ne pas attendre le chômage parce qu'on grille un peu
Bah,
le temps, quoi.
et après, on a un stress qui n'est plus du tout le même. On a une pression qui est totalement différente quand il n'y a plus du tout de filet de sécurité.
Ouais, carrément. Et ça compte beaucoup. Il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que je pose dorénavant à tous mes invités. S'il y avait un conseil à donner à nos enfants pour qu'ils soient des adultes travailleurs heureux, ça serait quoi?
De ne pas se mettre de barrière, d'oser justement rêver et qu'en fait, il n'y a rien d'inaccessible.
C'est beau. On arrive à la fin de cette discussion et j'ai cinq dernières questions en vrac à te poser. T'es
Vas-y,
prête?
prête.
C'est quoi pour toi la réussite?
La réussite, c'est très personnel, cette notion de réussite. Et c'est simplement pour moi être heureux.
Si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie d'un coup de baguette magique, ça serait quoi? Ou dans la vie en général?
Alors dans la mienne, rien, parce que je pense que tous les aspects de notre vie nous construisent et font ce qu'on est. Et de manière générale, sûrement un peu plus de conscience écologique.
C'est bizarre, je m'attendais à cette réponse. Un petit mantra qui te suit au quotidien ou qui t'anime plus particulièrement en ce moment?
Ça serait que je peux construire la vie que j'ai envie. Je suis la seule maître de ma vie.
Ça me plaît. Si tu devais me donner une marque ou une personnalité que tu aimes beaucoup, dont l'univers t'inspire et que tu adorerais découvrir justement qui se cache derrière. Ce serait qui ou quoi?
Ah, question difficile, il y en a beaucoup.
Eh oui. Tu peux en donner plusieurs, hein.
Alors, oui. Bien. Alors, je suis une fan de ce que fait la guinguette d'Angèle. Déjà, donc, je suis une fan de son univers et de ce qu'elle propose. Après, forcément, toute logique dans ceux qui m'inspirent en ce moment, ce sont les fondateurs de Deux-Tonnes, qui ont une vision ultra intéressante et un projet plein de sens. Et après, alors je ne sais pas si tu connais Jennifer Hart Smith, que
Non.
j'aime aussi beaucoup, qui est une naturopathe. Et qui se bat aussi pour une alimentation plus durable, ouais, qui a écrit pas mal de livres sur le sujet.
Ok, mais je crois que j'ai déjà vu les bouquins
Oui.
quand tu les postes en story,
Oui.
non? Peut-être, ouais.
Oui,
Ok.
sûrement.
Alors je vois. Et qu'est-ce que ce serait pour toi être une entrepreneure bien dans ses baskets?
C'est d'être aligné avec. Déjà, je cherche mon mot, pardon. C'est d'être aligné avec ses valeurs.
Ok. Et est-ce qu'on peut dire que toi, tu es bien dans ta marque?
Totalement.
Ok. Eh bien, écoute, j'ai fini. Où est-ce qu'on peut se diriger, où est-ce que les auditeurs peuvent se diriger pour en découvrir plus sur toi?
Sur mon site Utopique et sur mon compte Instagram, Sandra Contina.
Je mettrai les liens dans la description de ce podcast. Je te remercie.
Merci,
C'était hyper
Morgane.
intéressant. J'ai vraiment eu l'impression de te décortiquer dans tous les sens. Ah, ça va?
Merci pour l'accueil, c'était super chouette.
Bah écoute, c'était un grand plaisir. Je te dis à bientôt.
À bientôt, Morgane.
Ciao!
Ciao.
Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire, partage l'épisode autour de toi, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, @sacochette dans la boîte. Et encore mieux, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est tellement important d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux le suivre pour ne pas louper les prochains épisodes. Et aussi, tu peux aller faire un tour sur le site www.sacochettedanslaboîte.fr et cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ta marque. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici. Je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Salut!